Ces choses se sont passées l'hiver dernier, monsieur, continua madame Dean, il y a à peine un an de cela. L'hiver dernier, je ne pensais guère que 12 mois après, j'aurais à raconter ici ces aventures à un étranger. Mais qui sait combien de temps vous serez un étranger? Vous êtes trop jeune pour vous résigner à vivre toujours seul, et j'ai l'idée qu'on ne peut pas voir Catherine Linton et ne pas l'aimer. Vous souriez, mais pourquoi avez-vous l'air si animé et si intéressé lorsque je vous parle d'elle? Et pourquoi m'avez-vous demandé de suspendre son portrait au-dessus de votre cheminée? Et pourquoi? Oh, arrêtez, ma chère dame, m'écriai-je. Il pourrait se faire que moi, je l'aime, mais elle voudrait-elle m'aimer? J'en doute trop pour risquer mon repos d'esprit en me laissant aller à la tentation. Mais continuez votre histoire. Catherine s'est-elle rendue à l'ordre de son père? Oui, reprit la brave femme. Son affection pour son père restait toujours le plus fort de ses sentiments, et puis lui avait parlé sans colère, avec la profonde tendresse d'un homme qui est sur le point d'abandonner son trésor au milieu des dangers, sans pouvoir lui laisser d'autre guide que le souvenir de ses paroles. Quelques jours après, il me dit « Je voudrais que mon neveu écrive ou qu'il vienne ici. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de lui. Est-il changé en mieux? Y a-t-il des chances qu'il s'améliore en devenant un homme ?»« Il est très délicat, monsieur, répondis-je, et j'ai de la peine à croire qu'il vive longtemps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne ressemble pas à son père. Et si par malheur Miss Cathy venait à l'épouser, il n'échapperait pas à son contrôle, à moins qu'elle ne fût indulgente jusqu'à la folie. » D'ailleurs, monsieur, vous auriez bien le temps encore de faire connaissance avec lui et de voir ce qu'il en est. Il est encore si jeune. Edgar soupira et, s'avançant vers la fenêtre, regarda du côté du cimetière de Jim Merton. L'après-midi était brumeuse, mais le soleil de février brillait confusément et l'on pouvait distinguer les 2 sapins et les quelques tombes éparses. « J'ai souvent prié, dit Edgar, se parlant à lui-même, pour demander que ce qui arrive soit prochain. Et maintenant, je commence à tressaillir et en avoir peur. Je pensais que le souvenir de l'heure où j'étais descendu de ces collines en qualité de fiancé serait moins doux pour moi que l'espoir de les remonter bientôt pour être à jamais déposé là-haut. Hélène, j'ai été très heureux avec ma petite Cathy dans les soirs d'hiver et dans les matins d'été. Elle a été près de moi comme un espoir vivant. Mais j'ai été bien heureux aussi en rêvant seul parmi ces pierres, près de la vieille église, en m'étendant pendant les longues soirées de juin sur l'herbe qui recouvre le tombeau de sa mère et en me figurant que j'étais déjà moi-même là-dessous. Que puis-je faire pour Cathy? Comment dois-je la quitter? Je ne m'arrête pas un instant à ce fait que Linton est le fils d'Heathcliff. Il m'est indifférent que ce soit lui qui me prenne ma fille s'il doit la consoler de ma perte. Ce que je ne veux pas seulement, c'est que Heathcliff arrive à ses fins et triomphe en me dérobant mon dernier bonheur. Mais si Linton est un être indigne, s'il n'est qu'un faible jouet dans les mains de son père, je ne puis lui abandonner Catherine. Et si dur que cela me soit de réfréner son bouillant esprit, il me faudra persévérer à l'attrister tant que je vivrai et à la laisser seule quand je mourrai. La pauvre chérie, j'aimerais mieux pouvoir la sacrifier à Dieu et la déposer dans la terre avant moi. « Mais offrez-la à Dieu dès maintenant, monsieur, répondis-je. Remettez-vous-en à sa providence. Je resterai jusqu'au bout son amie et sa conseillère. Mais Catherine est une brave fille. Jamais elle ne fera le mal volontairement, et ceux qui font leur devoir finissent toujours par être récompensés. » Le printemps avançait, mon maître avait repris ses promenades sur ses terres, avec Catherine, mais en vérité, il ne retrouvait pas ses forces. Le jour anniversaire des 17 ans de Catherine, il ne fit pas sa visite au cimetière. Le temps était pluvieux et il me dit qu'il remettrait la chose à un autre jour. Il écrivit de nouveau à Linton, lui faisant part de son vif désir de le voir. Et si le jeune malade avait été en état de se présenter, je suis sûr que son père l'aurait autorisé à venir. Les choses étant ce qu'elles étaient, Linton répondit à son oncle que son père lui refusait l'autorisation de venir à la grange, mais que le bon souvenir de son oncle le remplissait de joie, qu'il avait bien l'espoir de le rencontrer un jour dans ses promenades et de lui demander en personne de ne plus être si entièrement séparé de sa cousine. Il finissait même par demander que M. Linton lui donnât un rendez-vous quelque part dans la campagne et y vint avec sa fille. Malgré les sentiments qu'il éprouvait pour son neveu, Edgar ne put consentir à cette requête, étant hors d'état d'accompagner Catherine. Il répondit que peut-être, à l'été, on se verrait, et qu'en attendant, il le priait de continuer à écrire de temps à autre. Linton n'y manqua pas. Il est probable qu'il aurait rempli toutes ses lettres de lamentations sur son triste sort au haut de Hurlevent, si son père n'avait pas tenu à être au courant de la correspondance et ne l'avait pas forcé à ne parler que de son amitié et de son amour. Le jeune Linton et son père avaient dans Catherine une alliée puissante. On persuada enfin à mon maître d'autoriser les deux jeunes gens à se promener ensemble dans la campagne une fois par semaine, sous ma surveillance. Lui-même, loin d'aller mieux, se sentait plus faible tous les jours. Bien qu'il eût déjà réservé pour sa fille une portion de sa fortune, il avait naturellement le désir de lui voir conserver la maison de ses ancêtres, et il ne considérait la chose comme possible que si Catherine se mariait avec son cousin. Il ne se doutait pas que ce dernier allait aussi mal que lui-même. Personne d'ailleurs ne s'en doutait. Je crois qu'aucun médecin n'allait au bord de Hurlevent et nous n'avions personne pour nous instruire de l'état du jeune homme. Moi-même, je commençais à m'imaginer que mes pressentiments étaient faux et que Linton et Cliff se rétablissaient puisqu'ils proposaient de faire des promenades sur la lande et paraissaient si attachés à sa poursuite amoureuse. C'est plus tard seulement que j'appris avec quelle cruauté tyrannique Heathcliff avait traité son enfant mourant et comment il l'avait contraint à cette apparente bonne humeur par des procès d'autant plus pressants qu'il sentait plus proche le danger de voir déjouer ses avides projets. On était déjà au milieu de l'été lorsque M. Edgar donna enfin son consentement au rendez-vous et que Catherine et moi nous mîmes en route pour la première entrevue. Le temps était lourd et brûlant, mais il n'y avait pas à craindre de pluie et nous avions pris rendez-vous auprès de la grande borne sur le carrefour des deux routes. En arrivant à cet endroit, nous trouvâmes un petit berger que l'on avait envoyé vers nous et qui nous dit que Master Linton était de l'autre côté de la colline et qui nous priait d'aller le rejoindre un peu plus loin. Ah, voilà déjà que Master Linton a outrepassé la première injonction de son oncle, dis-je, car M. Edgar nous a ordonné de rester sur le territoire de la grange, et voilà que nous allons en sortir. Eh bien, nous retournerons nos chevaux dès que nous serons arrivés à lui, répondit la jeune fille, et nous ferons notre excursion du côté de la maison. Mais lorsque nous arrivâmes à l'endroit où il était, à peine à un quart de mile des hauts de Hurlevent, nous trouvâmes qu'il n'avait pas de cheval avec lui, de sorte que Catherine dut descendre. Le jeune homme était couché sur la bruyère en nous attendant, et ne se releva que lorsque nous fûmes tout près de lui. Il avait tant de peine à marcher et était si pâle que je m'écriai aussitôt « Eh, Master Heathcliff, Vous n'êtes pas en état de vous promener ce matin, comme vous avez mauvaise mine. » Catherine l'observait avec surprise et chagrin, et le cri de joie qu'elle allait pousser s'était changé en un cri d'effroi. Et au lieu de le complimenter de ce rendez-vous si longtemps retardé, elle ne put que lui demander s'il se sentait plus mal qu'à l'ordinaire. « Non, mieux, mieux, » murmura-t-il tout tremblant, s'appuyant sur elle de toute sa force pendant que ses grands yeux bleus la considéraient d'un air craintif. « Mais vous avez été plus mal, » insista sa cousine, « plus mal que lorsque je vous ai vu la dernière fois. Vous avez maigri. Je suis fatiguée. Il fait trop chaud pour marcher. Asseyons-nous ici. Souvent le matin, je me sens malade. » Papa dit que c'est la croissance. » Peu satisfaite de ses explications, Catherine s'assit et il s'étendit près d'elle. « Ceci est quelque chose comme votre paradis idéal, » dit-elle avec un effort pour être gaie. « Vous rappelez-vous que nous avons discuté un jour l'endroit où chacun de nous aimerait le mieux être ? La semaine prochaine, si vous le pouvez, nous descendrons jusqu'au parc de la Grange et je vous montrerai mon idéal à moi. » Linton ne paraissait pas se rappeler de quoi elle parlait. Il était d'ailleurs évident qu'il éprouvait alors une grande difficulté à entretenir une conversation quelconque. Son manque d'intérêt pour les sujets qu'elle soulevait et son absolue incapacité à en proposer d'autres étaient si manifestes que la jeune fille ne put cacher son désappointement. Toute la personne et toutes les manières de son cousin avaient subi un changement singulier. Ses mauvaises humeurs avaient été remplacées par une apathie complète, par la disposition morose et égoïste d'un malade inguérissable, repoussant la consolation et prêt à regarder comme une insulte la gaieté d'autrui. Catherine comprit aussi bien que moi que notre compagnie lui faisait l'effet d'une punition plutôt que d'une récompense, et elle ne se fit pas scrupule de proposer bientôt qu'on se séparât. Cette proposition eut pour effet de secouer la léthargie de Linton et de le mettre dans un état d'agitation extraordinaire. Il jeta un regard épouvanté du côté des hauts de Hurlevent et la supplia de rester encore une demi-heure. « Mais je suppose, » dit Catherine, « que vous serez plus à l'aise chez vous qu'ici, et je vois bien que ni mes paroles ni mes chansons ne peuvent vous amuser aujourd'hui. Vous êtes devenu bien plus sage que moi durant ces 6 mois, et vous avez désormais peu de goût pour mes divertissements. Sans cela, si je pouvais vous amuser, je resterais bien volontiers. « Restez pour vous reposer, » répondit-il. « Et... Catherine, ne pensez pas ou ne dites pas que je suis très mal portant. C'est le temps lourd et la chaleur qui m'ont étourdi, d'autant plus que j'ai marché jusqu'ici et que cela m'a très fatigué. Dites à mon oncle que je me porte assez bien, voulez-vous ? Oui, je lui dirai que vous m'avez dit cela, Linton, mais je ne pourrais pas lui affirmer que c'est vrai, répondit ma jeune maîtresse. Toute surprise de cette étrange obstination dans un mensonge évident. Et soyez ici de nouveau jeudi prochain, poursuivit-il en évitant ses regards. Et remerciez mon oncle de vous avoir permis de venir, remerciez-le bien, Catherine. Et si vous rencontriez mon père et s'il vous demandait de mes nouvelles, ne lui laissez pas supposer que j'ai été très silencieux et très stupide, et n'ayez pas l'air si abattu, car il se fâcherait. « Oh !» dit Catherine, « je ne me soucie pas de le fâcher. »« Mais moi, je m'en soucie, » murmura le jeune homme avec un frisson. « Ne le provoquez pas contre moi, Catherine, car il est très dur. » « Est-il en effet si sévère pour vous, Mr. Heathcliff, » demandai-je. « S'est-il fatigué de l'indulgence ? Et sa haine de passif qu'elle était, est-elle devenue active ? Linton me regarda, mais sans me répondre. Les deux jeunes gens restèrent assis, côté l'un de l'autre, pendant encore quelques minutes, pendant lesquelles il ne fit que retenir des soupirs d'épuisement et de souffrance. Vainement, Catherine essaya de le distraire. En se mettant à accueillir des airelles, elle vit qu'il ne fallait pas même songer à lui en offrir. « Il y a bien une demi-heure maintenant, Hélène, me dit-elle enfin à l'oreille. Je vois pas pourquoi nous resterions. Il est tout endormi et papa doit nous attendre. »« Eh bien, nous ne pouvons pas le laisser endormi. Attends qu'il se réveille et soyez patiente. Vous étiez bien pressée de partir, mais votre désir de revoir le jeune Linton s'est vite évaporé. » « Mais pourquoi désirait-il me voir ?» lui répondit Catherine. « Il me plaisait davantage autrefois dans ses plus méchantes humeurs qu'il ne fait à présent dans ses dispositions bizarres. Il a l'air de remplir une tâche qu'on lui a imposée par force. Mais je n'ai aucune envie de venir pour faire plaisir à Heathcliff, quelque raison qu'il puisse avoir pour contraindre son fils à l'ennui de ses rendez-vous. » Et tout en me réjouissant de savoir qu'il se porte mieux, je suis bien chagrine de voir qu'il soit devenu moins agréable et moins attaché à moi. Ah, ainsi, vous croyez qu'il se porte mieux, dis-je. Oui. Vous vous rappelez comme autrefois il parlait sans cesse de ses souffrances. Il n'est pas tout à fait bien, comme il m'a dit de le dire à papa, mais assurément il va bien mieux. « En cela, je ne suis pas de votre avis, observai-je, et je croirais plutôt que son état a bien empiré. » Linton s'était réveillé de son assoupissement et nous demanda d'un air terrifié si quelqu'un ne l'avait pas appelé par son nom. « Non, dit Catherine, à moins que ce ne soit dans vos rêves, mais je ne puis concevoir comment vous pouvez faire pour dormir dehors dans la matinée ? » ?»« Il m'a semblé entendre mon père, reprit-il en continuant à jeter autour de lui un regard effrayé. « Vous êtes sûr que personne n'a parlé ?»« Absolument sûr, répondit Catherine. Il n'y avait qu'Hélène et moi qui étions en train de discuter sur votre santé. » »« Êtes-vous réellement plus fort, Linton ?» que lorsque nous nous sommes séparés cet hiver. Oui, il y a au moins une chose qui affaiblit en vous votre affection pour moi. Dites, allez-vous vraiment mieux ? Les larmes jaillirent des yeux de Linton, tandis qu'il répondait, oui, oui, je vais mieux. Et toujours obsédé par cette voix imaginaire, son regard continuait à errer çà et là. Cathy se leva. « Il faut que nous nous séparions d'aujourd'hui, dit-elle. Je ne puis vous cacher que j'ai été tristement désappointée par ce rendez-vous. Je n'en parlerai à personne qu'à vous. Non que j'ai peur de M. Heathcliff. Taisez-vous, murmura Linton, pour l'amour de Dieu. Taisez-vous, il vient. » Et il s'attacha au bras de Catherine, s'efforçant de la retenir. Mais elle, en attendant annoncer l'approche de M. Heathcliff, elle se dégagea rapidement et appela son poney qui vint aussitôt. « Je serai ici jeudi prochain !» cria-t-elle en sautant à cheval. « Adieu ! Vite, Hélène !» C'est ainsi que nous prîmes congé de lui. À peine s'aperçut-il de notre départ, absorbé qu'il était par l'idée de l'approche de son père. Avant même que nous fussions arrivés à la grange, le déplaisir de Catherine se changea en une sensation très embarrassée de pitié et de regret, où se mêlaient des doutes vagues et cruels sur la situation réelle, tant physique que morale, de Linton. Mon maître nous demanda le compte-rendu de notre excursion, et Miss Catherine lui transmit fidèlement les remerciements de son neveu passant sur le reste sans insister. Et moi-même, j'ajoutais peu de choses à ce qu'elle avait dit, ne sachant guère ce qu'il fallait cacher et ce qu'il fallait révéler. Une semaine se passa encore, chaque jour amenant un nouveau changement dans l'état d'Edgar Linton. Nous aurions bien voulu continuer à laisser Catherine dans ses illusions, mais la vivacité même de son esprit suffisait à la détromper. Elle devinait la chose en secret et ne cessait pas de méditer sur l'affreuse probabilité que chaque jour transformait davantage en une certitude. Lorsque le jeudi revint, elle n'eut pas le courage de faire mention de sa sortie. Mais j'y songeais pour elle et j'obtins la permission de la faire partir. La bibliothèque où son père passait tous les jours quelques heures et la chambre où il couchait étaient devenues pour elle l'univers tout entier. L'éveil et le chagrin l'avaient rendue toute pâle et mon maître l'envoya bien volontiers vers ce rendez-vous où il espérait qu'elle trouverait un heureux changement d'air et de société, se consolant à l'idée qu'il ne la laisserait pas entièrement seule après sa mort. Il s'imaginait toujours que, de même que son neveu lui ressemblait au physique, il devait lui ressembler au moral. Et moi, par une faiblesse excusable, j'évitais de le corriger de cette erreur, me demandant quel bien il y aurait à troubler ces derniers instants par la révélation de choses qu'il n'aurait aucun moyen de modifier. Nous ajournâmes notre excursion jusqu'à l'après-midi. Une après-midi d'or et d'août, le souffle des collines était si plein de vie qu'il semblait qu'il aurait suffi à un mourant de le respirer pour revivre. La figure de Catherine ressemblait au paysage qui nous entourait. Les ombres et la lumière s'y succédaient d'un instant à l'autre, mais les ombres duraient plus longtemps et son pauvre petit cœur se reprochait même ses oublis momentanés de ses soucis. Nous aperçûmes Linton, nous attendant au même endroit où nous l'avions vu la fois précédente. Ma jeune maîtresse descendit de cheval et me dit que, comme elle était résolue à ne rester que très peu de temps, je ferais mieux de tenir le poney et de rester moi-même à cheval. Mais je m'y refusai, ne voulant pas perdre de vue une seule minute la charge qui m'était confiée. Master Heathcliff nous reçut avec une grande animation, mais avec une émotion qui ressemblait davantage à de la peur qu'à du plaisir. « Il est tard, dit-il, parlant par saccade et avec peine. Votre père n'est-il pas très malade? Je pensais que vous ne vendriez pas. « Pourquoi ne pas être franc ? » lui cria Catherine, « et pas me dire tout de suite que vous n'aviez pas besoin de me voir. Il est bien étrange, Linton, que pour la seconde fois vous m'ayez fait venir ici dans la seule intention de nous chagriner l'un et l'autre. » Linton frissonna, et je t'assurai le regard demi-honteux, demi-suppliant, mais cette conduite énigmatique ne put désormais l'humeur de sa cousine. « Mon père est très malade, dit-elle, et pourquoi ai-je dû quitter son chevet? Mais pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé quelqu'un pour me délivrer de ma promesse, puisque vous désiriez que je ne la tienne pas? Allons, je désire une explication. J'ai perdu toute envie de jouer et de badiner, et je ne suis pas disposé à me prêter à vos affectations. Oh, « mes affectations, murmura-t-il, oh, pour l'amour du ciel, Catherine. » « N'ayez pas l'air si fâché. Méprisez-moi autant que vous voudrez. Je suis un être lâche et misérable. On ne saurait assez me mépriser, mais je suis trop bas pour votre colère. Réservez votre haine pour mon père et contentez-vous du mépris pour moi. »« Folie !» cria Catherine exaspérée. « Mais quel vilain garçon ! Tenez, tremble comme si réellement j'allais le battre. » « Vous n'avez pas besoin de réclamer le mépris, Linton. Chacun est tout disposé à vous l'offrir de lui-même. Laissez-moi, je vais retourner à la maison. Lâchez ma robe. Si j'avais pitié de vous, vous vous moqueriez de ma pitié. Hélène, dites-lui combien sa conduite est odieuse. » La face convulsée dans une expression d'agonie, Linton s'était jeté sur le sol, comme s'il avait été saisi d'une terreur insensée. Oh, gémissait-il, je ne puis supporter cela. Catherine, Catherine, je suis un traître, et je n'ose pas vous le dire. Si vous m'abandonnez, sûrement je serai tué. Chère Catherine, ma vie est entre vos mains, et si, comme vous me l'avez dit, vous m'aimez, la chose ne peut vous déplaire. Ainsi, vous n'allez pas vous en aller. Bonne, douce, chère Catherine. Et peut-être que vous voudrez bien consentir et qu'il me laissera mourir avec vous. » Ma jeune maîtresse, en voyant l'intensité de ses angoisses, se baissa pour le soulever. Son vieux sentiment d'indulgence, tendresse, prit le dessus sur sa mauvaise humeur et une extrême émotion l'envahit. « Mais consentir à quoi ? » demanda-t-elle. « À rester ? » Avant tout, dites-moi le sens de cet étrange discours. Soyez calme et franc, et avouez tout de suite ce qui vous pèse sur le cœur. Vous ne voudriez pas me faire de tort, Linton, n'est-ce pas? Vous ne me permettriez pas qu'un ennemi me nuise si vous pouviez l'empêcher. Vous ne pouvez trahir lâchement vos meilleurs amis. Mais mon père m'a menacé, murmura le jeune homme, en serrant ses doigts ainsi. Et j'ai peur de lui, j'ai peur. Je n'ose pas vous dire. Eh bien, dit Catherine avec une compassion dédaigneuse, gardez votre secret. Je ne suis pas lâche, moi, je n'ai pas peur. Sa générosité provoqua chez Linton un nouvel accès de larmes. Il pleurait, il lui baisait les mains, sans trouver le courage de parler. Je réfléchissais à ce que pouvait bien être ce mystère, lorsque, entendant un petit bruit, je levai les yeux et aperçus M. Heathcliff, qui descendait des hauts de Hurlevent et était arrivé presque tout contre nous. Il ne jetait pas un seul regard vers mes compagnons, bien qu'il fût assez près d'eux pour entendre les sanglots de son fils. Mais, me saluant avec le ton presque cordial qu'il avait toujours à ma disposition, il me dit « Quel plaisir de vous rencontrer si près de ma maison, Nelly. Comment ça va-t-il à la grange? Le bruit court qu'Edgar Linton est sur son lit de mort. Peut-être a-t-on exagéré sa maladie ?»« Oh non, répondis-je, mon maître est mourant. C'est trop vrai. Ce sera une triste chose pour nous tous, mais une bénédiction pour lui. Combien de temps croyez-vous qu'il dure ?» Je ne sais pas. C'est que, poursuivit-il en regardant le jeune couple qui se tenait immobile à quelques pas de lui, ce garçon que vous voyez là semble avoir juré d'empêcher mes projets. Et je serais reconnaissant à son oncle de se hâter et de partir avant lui. Oh là ! Est-ce qu'il y a longtemps qu'il joue à ce jeu de pleurnichage ? Je lui ai pourtant donné quelques leçons là-dessus. Est-il en général assez animé avec Miss Linton ? Animé ? Répondis-je. Oh non. Il a fait voir au contraire la plus grande détresse. Dans l'état où il est, au lieu d'errer sur les collines avec son amoureuse, il devrait bien plutôt être dans son lit, entre les mains d'un médecin. Il sera dans un jour ou deux, murmura Heathcliff. « Mais d'abord, allons, levez-vous, Linton, levez-vous » cria-t-il. « Relevez-vous tout de suite !» Linton, épouvanté, fit des efforts désespérés pour obéir, mais il était sans force et je le vis retomber avec un cri sourd. M. Heathcliff s'avança vers lui et l'aida à se lever. « Allons » dit-il d'un ton féroce. « Je vais me fâcher !» Et prenez garde à vous si vous ne domptez pas ce vilain esprit. Allons, levez-vous tout de suite.
Oh, oui, mon père, sanglotait-il. J'ai fait comme vous le désiriez. Je vous assure, Catherine vous dira que j'ai été gaie. Oh, restez près de moi, Catherine. Donnez-moi votre main.
Prenez la mienne, dit son père, et tenez-vous debout. Là, bon, elle vous prêtera son bras. « Miss Linton, soyez assez bonne pour marcher avec lui jusqu'à la maison, voulez-vous ? Il frissonne dès que je le touche. »
Mais Linton, mon chéri, murmura Catherine, je ne puis pas aller au haut de Hurlevent, papa me l'a défendu. Il ne vous fera pas de mal, pourquoi avez-vous si peur?
Je ne puis pas rentrer dans cette maison, répondit-il, je n'y rentrerai pas sans vous.
Arrêtez, cria son père. Nous allons respecter les scrupules filiaux de Catherine. Nelly, ramenez mon fils et je vais m'empresser de suivre votre conseil au sujet du médecin.
Vous ferez bien, répondis-je, mais il faut que je reste avec ma maîtresse et m'occuper de votre fils n'est pas mon affaire.
Eh bien alors, dit Heathcliff, vous allez me forcer à m'en occuper moi-même et à le faire crier. Venez ici, mon héros. Voulez-vous rentrer en ma compagnie ?
Il se rapprocha de nouveau de la fragile créature et fit mine de vouloir la saisir. Mais Linton, se reculant, se cramponna à sa cousine et la supplia de l'accompagner d'un ton passionné qui n'admettait pas le refus. Nous atteignîmes ainsi le seuil de la maison. Catherine entra et je restai à l'attendre, espérant qu'elle allait sortir après avoir installé son cousin dans un fauteuil.
« Ma maison n'est pas frappée de la peste, Nelly, » dit M. Heathcliff en me poussant en avant. « Et j'ai dans l'idée d'être hospitalier aujourd'hui. Asseyez-vous et laissez-moi fermer la porte. » Il la ferma à clé. J'étais inquiète. « Je veux que vous ayez du thé avant de rentrer, » reprit-il. « Je suis seul ici. Harton est parti conduire du bétail et Zia et Joseph font une partie de plaisir. Miss Linton, asseyez-vous près de lui. Je vous donne ce que j'ai. Le présent vous garde la peine d'être accepté, mais je n'ai pas autre chose à offrir. C'est Linton que je veux dire. Comme elle me regarde. » Et il maugréa quelques phrases qu'il conclut ainsi en frappant la table.
Par le diable, je le hais.
« Je n'ai pas peur de vous, » s'écria Catherine, dressée en face de lui, ses yeux noirs éclatant de passion et de résolution. « Donnez-moi cette clé. Je veux la voir. Je ne veux ni boire ni manger ici, quand il me faudrait mourir de faim. »
Heathcliff tenait la clé de la maison dans sa main. La hardiesse de la jeune fille le surprit, et peut-être lui rappela-t-elle la voix et le regard de la personne dont elle en avait hérité. Cathy se jeta sur la clé et parvint presque à la lui retirer des doigts. Mais il reprit bien vite possession de lui-même et la retint. « Allons, Catherine Linton, dit-il, tenez-vous tranquille, ou bien je vous jette par terre, et cela rendra folle Madame Dean. »
Indifférente à cet avertissement, elle se jeta de nouveau sur sa main pour avoir la clé. « Mais je veux m'en aller !» répétait-elle en faisant des efforts inouïs. Voyant que ses ongles ne faisaient pas d'effet, elle voulut se servir de ses dents. Alors Heathcliff ouvrit tout d'un coup sa main et laissa prendre la clé, mais au moment où Catherine la saisissait, il empoigna la jeune fille de l'autre main, l'attira à lui et lui administra sur la tête une série de tapes terribles. À la vue de cette violence diabolique, je m'élançai furieuse. « Vilain !» criai-je, « vilain homme !» Mais un coup dans la poitrine m'arrêta et faillit m'étouffer. Catherine, enfin lâchée, porta ses deux mains à ses tempes comme si elle voulait s'assurer que ses oreilles n'avaient pas été enlevées. Elle tremblait comme un roseau, la pauvre chérie, et s'appuyait contre la table, absolument égarée.
« Vous voyez que je sais châtier les enfants !» ricana Heathcliff en se baissant pour ramasser la clé qui était tombée à terre. « Allez maintenant vers Linton, comme je vous l'ai dit, et pleurez à votre aise. Je serai votre père demain, et bientôt le seul père que vous aurez. Et puisque vous êtes si forte, vous aurez tous les jours l'occasion de goûter de ses douceurs, si je retrouve encore cette méchante humeur dans vos yeux. »
Cathy avait couru vers moi, s'était agenouillée et avait appuyé en pleurant sa joue brûlante sur ma main.
Son cousin se tenait immobile sur un coin du banc, se félicitant sans doute de ce que la correction était tombée sur un autre que lui. M. Heathcliff se leva et fit le thé lui-même. Lorsqu'il l'eut fait, il m'en offrit une tasse. « Secouez votre spleen, me dit-il, et prenez soin de votre nourrisson et du mien. Oh, ce thé n'est pas empoisonné, bien que ce soit moi qui l'ai préparé. Je vais sortir et aller chercher vos chevaux. » Notre première pensée, lorsqu'il fut parti, fut de trouver quelque part une sortie. Nous essayâmes la porte de la cuisine, les fenêtres, impossible. « Master Linton, criai-je, voyant que nous étions bel et bien emprisonnés, vous savez ce que je projette de votre vilain père, et vous allez nous le dire ou je vous traite comme il traite votre cousine. » « Oui, Linton, vous devez nous le dire, dit Catherine. C'est par amitié pour vous que je suis venu, et vous seriez trop ingrat si vous refusiez. « Donnez-moi du thé, et alors je vous le dirai, » répondit Linton. Oh, « Tenez, Catherine, vous laissez tomber vos larmes dans ma tasse, je ne veux pas boire ça. Donnez-moi une autre. » Catherine lui donna une autre tasse et essuya sa figure. « Eh bien, papa veut que nous nous marions, » poursuivit Linton, après avoir bu quelques gorgées. « Et comme il craint que votre père ne nous laisse pas nous marier maintenant, et qu'il a peur que je ne meure si nous tardons, il a résolu que nous nous marierions demain matin, après être restés ici toute la nuit. Et si vous faites comme il le veut, vous pourrez retourner chez vous demain et me prendre avec vous. » « Vous prendre avec elle, misérable créature, m'écriai-je, et vous, vous marier avec elle? Eh bien, ou cet homme est fou, ou il nous croit folle. Et est-ce que vous imaginez que cette belle jeune fille va se lier à un petit singe agonisant comme vous? Rester toute la nuit ici, fit Catherine en parcourant la chambre des yeux. Oh non, Hélène! Je brûlerai plutôt cette porte, mais je sortirai. » Malgré les supplications de Linton, elle s'acharnait à vouloir sortir à tout prix lorsque notre geôlier entra. « Vos chevaux sont partis, me dit-il. « Eh quoi, Linton, vous pleurnichez de nouveau? Qu'est-ce qu'elles vous ont encore fait? Allons, allez, asseyez-vous, montez-vous coucher. » « Zila n'est pas là, il faudra vous déshabiller vous-même. »« Voyons, taisez-vous. Une fois dans votre chambre, vous n'avez pas à avoir peur, je ne me rapprocherai pas de vous. »« Il se trouve par hasard que vous vous êtes assez bien conduit. Maintenant, je me charge du reste. » Linton sortit de la façon piteuse et défiante d'un chien qui s'attend à être battu sur le pas de la porte. Heathcliff s'approcha alors du foyer où Catherine et moi nous tenions sans rien dire. « Ah, dit-il, vous n'avez pas peur de moi. Eh bien, vous savez déguiser votre courage, car vous avez l'air terriblement effrayé. » « Je suis effrayé maintenant, répondit-elle, parce que si je reste ici, papa en sera malheureux. Monsieur Heathcliff, laissez-moi rentrer à la maison. » « Je vous promets d'épouser Linton. Papa le veut et je l'aime. Pourquoi voudriez-vous me forcer à faire ce que je consens à faire de moi-même? Qu'il ait donc l'audace de vous forcer, m'écriai-je. Ah, Dieu merci, il y a une loi dans le pays. Silence, dit le vilain, au diable avec vos clameurs. « Miss Linton, ce sera pour moi une vive joie de penser que votre père est malheureux. Vous ne pouviez trouver un meilleur moyen de me déterminer à vous garder ici. Quant à votre promesse d'épouser Linton, je prendrai soin que vous la teniez, car vous ne quitterez pas mon toit avant que la chose soit faite. »
« Alors, envoyez Hélène pour faire savoir à papa que je suis en sûreté, » supplia Catherine tout en larmes. « Ou bien, mariez-moi tout de suite. Pauvre papa, Hélène, il va croire que nous sommes perdus. Qu'allons-nous faire?
Bon, il va croire simplement que vous vous êtes fatigué de le soigner et que vous vous êtes sauvé pour vous offrir un peu d'amusement, répondit Heathcliff. Pleurez à votre aise. Autant que je puis en juger, ce sera dans la suite votre principal divertissement. Ah, Linton a tout ce qu'il faut pour bien jouer le tyran.
Oh, vous avez bien raison, répondis-je. Expliquez le caractère de votre fils. Montrez sa ressemblance avec vous. De cette façon, j'espère que Miss Catherine y regardera deux fois avant de l'épouser.
Bon, oh là là, pour l'importance, à présent, répondit Heathcliff. Il faudra qu'elle l'accepte pour mari ou qu'elle reste prisonnière ici. Et vous avec elle, jusqu'à ce que votre maître meure. Je peux vous tenir parfaitement caché ici. Et si vous en doutez, encouragez-la à rétracter sa promesse.
Je ne veux pas la rétracter, dit Catherine. Je veux bien me marier à l'instant même, si je puis aller ensuite à Trussell's Grange. Monsieur Heathcliff, vous ne voudriez pas par méchanceté détruire à jamais tout mon bonheur? Oui, je me mets à vos genoux devant vous. Je ne ferai rien pour vous irriter. N'avez-vous donc jamais aimé personne dans votre vie, mon oncle?
Retirez-vous d'ici, ou je vous fais battre, cria Heathcliff, la repoussant brutalement. Je vous hais!
Il se secoua comme si toute sa chair frémissait d'aversion. Il recula sa chaise, et comme j'ouvrais la bouche pour commencer un filet d'injures, il me fit taire dans le milieu de la première phrase, en me menaçant de m'enfermer toute seule dans une chambre à la première syllabe que je dirais. La nuit venait. Nous entendîmes un bruit de voix à la porte du jardin. Notre hôte, qui n'avait rien perdu de sa présence d'esprit, courut aussitôt dehors. Il y eut une conversation de 2 ou 3 minutes, puis il revint seul.
Oh, je pensais que c'était votre cousin Hareton, dis-je à Catherine. Je voudrais qu'il vînt, qui sait s'il ne prendrait pas notre parti.
C'était 3 domestiques de la grange, envoyés pour vous chercher, dit Cliff, qui m'avait entendu. Vous auriez pu ouvrir une fenêtre et appeler, mais je jurerais que cette chatte est heureuse que vous ne l'ayez pas fait. Elle est contente d'être forcée de rester, j'en suis sûr.
En apprenant la chance que nous avions manquée, nous nous laissâmes aller l'une et l'autre à notre chagrin, et il nous laissa nous lamenter jusqu'à 9 heures. Puis il nous ordonna de monter par la cuisine à la chambre de Zillah, et je soufflai à la jeune fille d'obéir, dans l'espoir que nous pourrions nous échapper par une fenêtre, mais la fenêtre était étroite comme celle du rez-de-chaussée, et la porte du grenier était fermée. Catherine et moi restâmes ainsi jusqu'au lendemain, sans dormir ni nous coucher, et sans échanger autre chose que des soupirs. À 7 heures, Heathcliff vint et demanda si Miss Linton était levée. Elle courut aussitôt à la porte et répondit « Oui ». «
Alors venez, dit-il, et il la tira dehors.
Je m'étais levé pour la suivre, mais il referma la porte sur moi. Je demandai à être relâché.
« Prenez patience, me répondit-il, je vous ferai monter votre déjeuner dans un instant. »
Je frappai du poing les panneaux, et j'entendis Catherine demander pourquoi j'étais enfermé. Le monstre répondit qu'il me faudrait encore rester ainsi 1 heure, et puis ils s'éloignèrent. Je restai en effet ainsi 2 ou 3 heures, et à la fin j'entendis un bruit de pas, mais ce n'était pas Heathcliff. Je vous ai apporté quelque chose à manger, me dit une voix, et quand la porte se fut ouverte, j'aperçus Hareton qui m'apportait une nourriture suffisante pour ma journée.
Prenez cela, dit-il en déposant la chose entre mes mains.
Restez 1 minute. « Non !» cria-t-il en se retirant, sans égard pour toutes les prières que je pouvais lui adresser.
Et c'est ainsi que je restai enfermé toute la journée et toute la nuit suivante, et 5 nuits et 4 jours, sans voir personne d'autre que Ayrton qui venait tous les matins. Et c'était bien un geôlier modèle, maussade et muet, rebelle à tous mes efforts pour toucher sa justice ou sa compassion.